Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, d'après Maurice Leblanc. Premier épisode, La Dame Blonde. Chapitre 1. Le numéro 514, série 23. Le 8 décembre de l'an dernier, M. Gerbois, professeur de mathématiques au lycée de Versailles, dénicha dans le fouillis d'un marchand de bric-à-brac un petit secrétaire en acajou qui lui plut par la multiplicité de ses tiroirs.
« Voilà bien ce qu'il me faut pour l'anniversaire de Suzanne, » pensa-t-il.
Et comme il s'ingéniait dans la mesure de ses modestes ressources à faire plaisir à sa fille, il débattit le prix et versa la somme de 65 francs. Au moment où il donnait son adresse, un jeune homme de tournure élégante et qui furetait déjà de droite à gauche aperçut le meuble et demanda « Combien ?»«
Il est vendu !»
répliqua le marchand. « Ah ! À monsieur, peut-être ?» Monsieur Gerbois salua et, d'autant plus heureux d'avoir ce meuble qu'un de ses semblables le convoitait, il se retira. Mais il n'avait pas fait 10 pas dans la rue qu'il fut rejoint par le jeune homme qui, le chapeau à la main et d'un ton de parfaite courtoisie, lui dit « Je vous demande infiniment pardon, monsieur. Je vais vous poser une question indiscrète. Cherchiez-vous ce secrétaire plus spécialement qu'autre chose ?»«
Non, je cherchais une balance d'occasion pour certaines expériences de physique. » »«
Par conséquent, vous n'y tenez pas beaucoup. »
J'y tiens, voilà tout.
Parce qu'il est ancien, peut-être.
Parce qu'il est commode.
En ce cas, vous consentiriez à l'échanger contre un secrétaire aussi commode, mais en meilleur état.
Celui-ci est en bon état et l'échange me paraît inutile.
Cependant, M. Gerbois est un homme facilement irritable et de caractère ombrageux. Il répondit sèchement :
Je vous en prie, monsieur, n'insistez pas.
L'inconnu se planta devant lui. « J'ignore le prix que vous l'avez payé, monsieur. Je vous en offre le double. »«
Non. »«
Le triple. »«
Oh, restons-en là !» s'écria le professeur impatienté. « Ce qui m'appartient n'est pas à vendre. »
Le jeune homme le regarda fixement, d'un air que M. Gerbois ne devait pas oublier, puis, sans mot dire, tourna sur ses talons et s'éloigna. Une heure après, on apportait le meuble dans la maisonnette que le professeur occupait sur la route de Viroflay. Il appela sa fille.
« Voici pour toi, Suzanne, si toutefois il te convient. »
Suzanne était une jolie créature, expansive et heureuse. Elle se jeta au cou de son père et l'embrassa avec autant de joie que s'il lui avait offert un cadeau royal. Le soir même, l'ayant placée dans sa chambre avec l'aide d'Hortense, la bonne, elle nettoya les tiroirs et rangea soigneusement ses papiers, ses boîtes à lettres, sa correspondance, ses collections de cartes postales et quelques souvenirs furtifs qu'elle conservait en l'honneur de son cousin Philippe. Le lendemain, à 7h30, M. Gerbois se rendit au lycée. À 10h, Suzanne, suivant une habitude quotidienne, l'attendait à la sortie. Et c'était un grand plaisir pour lui que d'aviser, sur le trottoir opposé à la grille, sa silhouette gracieuse et son sourire d'enfant. Ils s'en revinrent ensemble.
« Et ton secrétaire ?»«
Une pure merveille. Hortense et moi, nous avons fait les cuivres. On dirait de l'or. »«
Ainsi, tu es contente. »«
Si je suis contente, c'est-à-dire que je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici. »
Ils traversèrent le jardin qui précède la maison. Monsieur Gerbois proposa
« Nous pourrions aller le voir avant le déjeuner. »«
Oh oui, c'est une bonne idée !»
Elle monta la première, mais arrivée au seuil de sa chambre, elle poussa un cri d'effarement.
« Qu'y a-t-il donc ?»
balbutia Monsieur Gerbois. À son tour, il entra dans la chambre. Le secrétaire n'y était plus. Ce qui étonna le juge d'instruction, c'est l'admirable simplicité des moyens employés. En l'absence de Suzanne, et tandis que la bonne faisait son marché, un commissionnaire muni de sa plaque, des voisins la virent, avait arrêté sa charrette devant le jardin et sonné par 2 fois. Les voisins, ignorant que la bonne était dehors, n'eurent aucun soupçon,
de sorte que l'individu effectua sa besogne dans la plus absolue quiétude. À remarquer ceci, aucune armoire ne fut fracturée, aucune pendule dérangée. Bien plus, le porte-monnaie de Suzanne, qu'elle avait laissé sur le marbre du secrétaire, se retrouva sur la table voisine avec les pièces d'or qu'il contenait. Le mobile du vol était donc nettement déterminé, ce qui rendait le vol d'autant plus inexplicable, car enfin, pourquoi courir tant de risques pour un butin si minime ? Le seul indice que put fournir le professeur fut l'incident de la veille.
« Tout de suite, ce jeune homme a marqué de mon refus une vive contrariété, et j'ai eu l'impression très nette qu'il me quittait sur une menace. »
C'était bien vague. On interrogea le marchand. Il ne connaissait ni l'un ni l'autre de ces deux messieurs. Quant à l'objet, il l'avait acheté 40 francs à Chevreuse dans une vente après décès et croyait bien l'avoir revendu à sa juste valeur. L'enquête poursuivie n'apprit rien de plus. Mais M. Gerbois resta persuadé qu'il avait subi un dommage énorme. Une fortune devait être dissimulée dans le double fond d'un tiroir, et c'était la raison pour laquelle le jeune homme, connaissant la cachette, avait agi avec une telle décision.
« Mon pauvre père, qu'aurions-nous fait de cette fortune ?» répétait Suzanne.
« Comment ? Mais avec une pareille dot, tu pouvais prétendre au plus haut parti. »
Suzanne, qui bornait ses prétentions à son cousin Philippe, lequel était un parti pitoyable, soupirait amèrement. Et dans la petite maison de Versailles, la vie continua, moins gaie, moins insouciante, assombrie de regrets et de déceptions. 2 mois se passèrent. Et soudain, coup sur coup, les événements les plus graves, une suite imprévue d'heureuses chances et de catastrophes. Le 1er février, à 5h30, M. Gerbois, qui venait de rentrer, un journal du soir à la main, s'assit, mit ses lunettes et commença de lire. La politique ne l'intéressant pas, il tourna la page. Aussitôt, un article attira son attention, intitulé « 3e tirage de la loterie des associations de la presse ». Le numéro 514, série 23, gagne 1 million. Le journal lui glissa des doigts. Les murs vacillèrent devant ses yeux et son cœur cessa de battre. Le numéro 514, série 23, c'était son numéro. Il l'avait acheté par hasard pour rendre service à l'un de ses amis, car il ne croyait guère aux faveurs du destin. Et voilà qu'il gagnait. Vite, il tira son calepin. Le numéro 514, série 23, était bien inscrit, pour mémoire, sur la page de garde. Mais le billet ? Il bondit vers son cabinet de travail pour y chercher la boîte d'enveloppes parmi lesquelles il avait glissé le précieux billet. Et dès l'entrée, il s'arrêta net, chancelant de nouveau et le cœur contracté. La boîte d'enveloppes ne se trouvait pas là. Et, chose terrifiante, il se rendait subitement compte qu'il y avait des semaines qu'elle n'était pas là. Depuis des semaines, il ne l'apercevait plus devant lui aux heures où il corrigeait les devoirs de ses élèves. Un bruit de pas sur le gravier du jardin. Il appela
« Suzanne ! Suzanne !»
Elle arrivait de course. Elle monta précipitamment. Il bégaya d'une voix étranglée.
« Suzanne, la boîte, la boîte d'enveloppe !»«
Laquelle ?»
« Celle du Louvre, que j'avais rapportée un jeudi et qui était au bout de cette table. »«
Mais rappelle-toi, père, c'est ensemble que nous l'avons rangée. »«
Quand ?»«
Le soir, tu sais, la veille du jour. »«
Mais où ? Réponds, tu me fais mourir. »«
Où ? Dans le secrétaire. »«
Dans le secrétaire qui a été volé ? » ?»«
Oui. »
Dans le secrétaire qui a été volé. »
Il répéta ces mots tout bas, avec une sorte d'épouvante. Puis il lui saisit la main, et d'un ton plus bas encore,
« Elle contenait
1 000 000, ma fille.
Oh, père, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?
Murmura-t-elle naïvement.
1 000 000, reprit-il. C'était le numéro gagnant des bons de la presse.
L'énormité du désastre les écrasait, et longtemps, ils gardèrent un silence qu'ils n'avaient pas le courage de rompre. Enfin, Suzanne prononça
« Mais, père, on te le paiera tout de même.
« Pourquoi ? Sur quelle preuve ?
« Il faut donc des preuves.
« Parbleu !
« Et tu n'en as pas ?
« Si, j'en ai une.
« Alors ?
« Elle était dans la boîte.
« Dans la boîte qui a disparu ?
« Oui, et c'est l'autre qui touchera.
« Mais ce serait abominable. « Voyons, père, tu pourras t'y opposer.
« Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on sait ? Oh, cet homme doit être aussi fort. Il dispose de telles ressources. Souviens-toi, l'affaire de ce meuble. »
Il se releva dans un sursaut d'énergie et frappant du pied.
« Eh bien non, non ! Il ne l'aura pas, ce million, il ne l'aura pas ! Pourquoi l'aurait-il ? Après tout, si habile qu'il soit, lui non plus ne peut rien faire. S'il se présente pour toucher, on le coffre ? Ah, nous verrons bien, mon bonhomme.
Tu as donc une idée, père ?
Celle de défendre nos droits jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et nous réussirons. Le million est à moi, je l'aurai.
Quelques minutes plus tard, il expédiait cette dépêche. Gouverneur Crédit Foncier, rue Capucine, Paris. Suis possesseur du numéro 514, série 23. Mais opposition par toute voie légale à toute réclamation étrangère. Gerbois. Presque en même temps, parvenait au Crédit Foncier cet autre télégramme. Le numéro 514, série 23, est en ma possession. Arsène Lupin.